Gloire à Dieu. Bienvenue à tous. Pouvez-vous asseoir. Vous, Jean victorieux que vous êtes, Jean puissant que vous êtes, Jean transformé que vous êtes. Alléluia. Vous êtes le succès de Dieu. Vous êtes le rêve de Dieu. Dites, je suis le rêve de Dieu. Vous savez, Dieu vous a fait et vous êtes unique et personnel pour Dieu. Dieu vous aime, vous individuellement. Et Dieu souhaite une vie de succès. Vous n'avez pas le droit de ne pas vous aimer. Vous n'avez pas le droit de ne pas vous aimer, de ne pas vous apprécier, de ne pas aimer comme vous êtes. C'est interdit par Dieu, ça. Amen. Vous n'avez pas le droit de ne pas être heureux de qui Dieu vous a fait, parce que vous êtes unique et Dieu vous a créé pour une raison unique également. Personne ne peut être exactement comme vous. Personne ne peut être exactement la personne que vous êtes. Dieu vous a créé une fois pour toutes. Il n'y a jamais personne qui a été comme vous et il n'y a jamais personne qui sera comme vous dans le futur. Jamais. Vous êtes la seule version de vous-même. Et Dieu vous a créé, vous, avec votre caractère. Je ne dis pas qu'il faut approuver tous les aspects négatifs de votre caractère, mais il vous a créé, vous, avec votre apparence. Si vous êtes un homme, vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, vous êtes une femme pour une raison. Parce que Dieu vous aime et Dieu a prévu quelque chose pour vous. Amen. Et Dieu a un plan de bonheur et non de malheur à votre égard. Vous voyez? Et il est de la responsabilité individuelle du chrétien, ou de chaque personne, soit dit en passant, pas seulement du chrétien, de vivre ou non ce que Dieu a prévu. Vous voyez? Donc Dieu a prévu pour vous, par exemple, la santé. Mais c'est à nous de marcher dans cette santé. Ce n'est pas Dieu qui va vous forcer sa santé. Et la parole de Dieu est notre guide ultime pour savoir quoi faire par le Saint-Esprit. D'accord ? Donc, Dieu n'a jamais prévu que votre vie soit un échec. Dieu n'a jamais prévu que votre vie ne porte pas de fruits. Dieu n'a jamais prévu que votre vie soit le résultat de hasard. Vous voyez ? Je vais vous donner un exemple personnel très intéressant. Vous savez, en Suisse, dans notre système éducatif, on fait l'école obligatoire. Ensuite, si on veut aller à l'université, on fait le gymnase ou on fait un apprentissage et tout ça. Et donc, c'est ce que moi, j'avais fait, parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore grandi dans la connaissance de Dieu sur suivre le plan de Dieu exactement, vous voyez. Et donc, au niveau humain, tout se passait bien pour moi. J'ai fait mon CFC, ensuite j'ai eu des postes, on m'a fait monter en grade assez vite. Et ensuite j'étais responsable technique pour l'informatique de toute une entreprise. Oui, donc ça paraît sympa hein, comme poste. Si les humains regardent ça, ils disent « génial, bravo ». Tout semblait marcher comme il fallait. Et là Dieu il vient, il fait « quitte ton travail et lance ta propre entreprise ». Ce qui semblait absolument dénoué de sens, d'accord ? Pourtant, gloire à Dieu, j'ai obéi. Mais donc je voulais dire, votre vie n'est pas le fruit du hasard. Dieu voudrait que votre vie soit le résultat de votre obéissance et de votre foi en lui. Et là, vous allez avoir la vie la plus belle. Alors, je ne suis pas en train de vous encourager à arrêter votre travail, c'est pas ce que je vous dis, d'accord ? Mais je vous encourage à grandir dans cette compréhension de qui Dieu est et de qui vous êtes. Et dans cette optique-là, j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble Romains. Parce que vous voyez, la parole de Dieu vous identifie littéralement. Et un enfant de Dieu est toujours victorieux en ce qui concerne Dieu. Dieu ne vous voit jamais, 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 jamais comme un échec. Parce que Christ est en vous. Et si Christ est en vous, vous avez l'espérance d'une gloire illimitée pour le monde. D'accord ? Vous suivez jusqu'ici ? Donc, en ce qui concerne Dieu, Dieu vous voit tel qu'il voit Christ. Dieu vous voit tel qu'il voit la réussite. Dieu vous voit dans votre esprit né de nouveau. Est-ce qu'on peut avoir juste 1 Corinthiens 6, 17 ? On va prendre juste ce verset. Parce que Dieu a une opinion de vous qui compte plus que n'importe quelle opinion à votre sujet. Dieu a une opinion qui vous concerne. Et cette opinion, elle doit surpasser toute autre opinion. Il est dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Dites, je suis un esprit avec le Seigneur. Donc, quand Dieu interagit avec votre esprit, il voit son esprit. Vous voyez ? Il voit qui il est. Si on peut avoir 1 Jean chapitre 4 et verset 17, vous allez voir. Parce que c'est important de comprendre que Dieu interagit avec vous sur la base de votre esprit, et non pas de votre âme, et non pas de votre corps. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au courant de ce qu'il y a dans votre âme et votre corps, hein, il le sait. C'est juste que quand il interagit avec vous, il interagit sur la base de qui vous êtes au niveau spirituel. Dites « la vie est spirituelle ». Tout est spirituel. Il dit « tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde ». Donc Jésus-Christ, hein, « tel Jésus est, tel vous êtes dans ce monde ». Donc bien sûr, il ne parle pas de votre corps physique. Vous voyez, Jésus, au niveau de son corps physique, était un homme. La moitié des gens ici ne sont pas des hommes. Il était au niveau de sa peau, il avait une peau qui était proche de ceux des Arabes d'aujourd'hui. Il était entre blanc et noir. Dieu a bien fait le truc. Hein. Il était ni l'un. Je sais qu'on voit souvent Jésus en blanc comme ça. Vous voyez, la peau très claire, les longs cheveux comme ça. Ce n'est pas vraiment la description biblique de Jésus. Hein. Déjà, Jésus n'avait pas de cheveux longs. Hein. Sous la loi mosaïque, avoir des cheveux longs comme une femme, ce n'était pas autorisé. Hein. Jusque vous vous rappelez ça. Jésus avait des cheveux courts. Il avait une très longue barbe, comme ça, mais très soignée. Vous savez, il y a ce... J'en rigole un peu parce qu'il y a cette série-là sur Jésus qui passe un peu partout. Et on voit, c'est un peu un espèce de bonnet avec sa barbe pas du tout travaillée et tout ça. Mais sous l'Ancien Testament, les hommes devaient avoir une barbe bien travaillée. C'était la loi de l'époque. Vous voyez, ils ne pouvaient pas avoir une barbe n'importe comment. Les cheveux longs étaient interdits aux hommes aussi. Jésus n'avait pas de cheveux longs. Enfin bref. Ok. Donc, en ce qui concerne votre esprit, Dieu vous voit tel que Jésus est. C'est-à-dire sans défaut, puissant, glorieux, grand, en santé, qui règne et qui est une absolue victoire constante. C'est comme ça que Jésus voit. Dites, Dieu me voit comme ça. Dites, Dieu me voit tel que Jésus est. Est-ce que vous croyez ça? Parce que ça voudrait dire que toutes les situations qui concernent votre monde physique, c'est-à-dire votre âme et votre corps, qui ne sont pas en adéquation avec la manière dont Jésus vous voit, ou dont Dieu vous voit, parce que Dieu et Jésus, c'est la même personne, cela veut dire que ces situations-là, qui sont au contraire de ce que Dieu dit, sont du ressort de votre responsabilité. Parce qu'en ce qui concerne Dieu, on peut avoir juste 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre 1, verset 1 à 4. Ça va être une introduction pour vous faire comprendre ce que Dieu a fait de vous. Vous êtes un prodige. Dites, je suis un prodige. Vu le nombre de personnes qu'on est, je pense que certains de vous ne l'ont pas dit. Alors vous savez, vous pensez peut-être que vous n'êtes pas un prodige, mais vous en êtes un. C'est Dieu qui le dit. Et l'opinion que Dieu a sur vous est plus importante que l'opinion que vous avez de vous-même. D'accord ? Donc, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Continuons juste. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Ensuite, il précise, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Dites, j'ai tout pour une vie et une piété parfaite. Notez le temps verbal quand même. Hein. Ce n'est pas dit « va nous donner » ou « peut nous donner » ou « nous donne », c'est « nous a donné ». Donc, à vous voyez, c'est pour ça des fois je vous dis en rigolant à certains, je vous connais mieux que vous vous connaissez. Pourquoi ? Parce que je sais ce que Dieu dit à votre sujet, au sujet de votre esprit né de nouveau. Je sais que vous avez une victoire. Pour moi, il n'y a pas de doute. La question, c'est comment la faire sortir de votre esprit pour qu'elle vienne dans votre âme et votre corps. Mais la victoire, pour moi, est acquise, finie. Parce que Dieu l'a dit, c'est fini. Et vous savez, c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas de nier le fait qu'on passe par des épreuves. La foi consiste à dire qu'il y a une vérité plus grande et plus supérieure à mon épreuve. C'est ça la foi. Ce n'est pas nier le fait qu'on ait quelque chose. La foi, c'est dire que la parole de Dieu surpasse de loin toutes ces choses. Donc il dit... au moyen de la connaissance, vous voyez, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, regardez, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc aujourd'hui, maintenant, les promesses de Dieu ont été accomplies en Jésus-Christ. Hein. Il n'y a plus de promesses pour un chrétien. Vous me dites, mais là, il dit promesse. Je vais vous expliquer. En grec, pour vous expliquer, si je fais une promesse à Stella, par exemple, je promets à Stella 100 000 francs, mais que je n'ai pas encore fait le transfert, c'est une promesse, n'est-ce pas ? Par contre, une fois que j'ai fait le transfert, est-ce que c'est encore une promesse ? Non, exactement. Ça, c'est en français. En grec, ce n'est pas le cas. D'accord? En grec, même quand une promesse a été accomplie, ça reste le terme promesse qu'on utilise. Et c'est pour ça qu'il dit les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine. Dites, je participe à la nature divine. Parce que Christ a accompli pour moi. Gloire à Dieu, alléluia, vous êtes un succès absolu et constant. Vos finances sont foisonnantes pour l'évangile, votre santé est foisonnante aussi. Vous êtes né de nouveau, vous êtes né de l'Esprit de Dieu. Ok, on avait dit Romains, hein. Romains chapitre 6, tout le chapitre, on ne va pas tout lire, vous en faites pas. C'est la fête des mamans aujourd'hui. Hein. Félicitations à toutes les mamans. Gloire à Dieu. Oh, si vous saviez à quel point, c'est pour ça qu'on vient à l'église. On ne vient pas à l'église pour plaire à Dieu, bien que ça plaise au Seigneur, attention, je ne dis pas. Hein. Mais on ne vient pas à l'église pour plaire à Dieu, parce que votre esprit, en ce qui concerne Dieu, plaît déjà au Seigneur. Dites, je plais à Dieu. Vous voyez, maintenant, il faut comprendre quelque chose. Qu'on vient à l'église, c'est pour être équipé de la parole. Vous voyez, toute votre vie, tout dans votre vie, absolument toute chose dans votre vie est le résultat de parole, tout. Qui c'est qui est venu en transport public aujourd'hui? Ok. Qui c'est qui est venu en voiture? Ok, excellent. Gloire à Dieu. Dans les deux cas, il y a des paroles qui ont été prononcées pour que vous puissiez venir en transport public. Il y a des gens qui ont dit, qui ont dû parler qu'ils allaient faire un itinéraire de bus pour la voiture. Il y a des gens qui ont dû parler, qui ont dû s'asseoir et discuter de la voiture que vous avez conduite pour la vendre. Ensuite, le concessionnaire qui vous l'a vendue a dû discuter avec vous. Donc, vous voyez, toute votre vie est le résultat direct ou indirect de parole. Tout. Les vêtements que vous portez sont le résultat de parole. Mais dans le monde de l'esprit, vous voyez, il y a quelque chose de beaucoup plus supérieur au niveau des paroles. Regardez. Que dirons-nous donc ? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Donc là, l'apôtre Paul, il dit quelque chose. Il vient de dire que la grâce a abondé parce que le péché avait abondé et la grâce a surabondé. Dites, la grâce a surabondé dans ma vie. Regardez au verset 2, on va lire là. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Donc j'aimerais exposer quelque chose que beaucoup de chrétiens croient, mais qui est faux. Le péché veut dire manquer sa cible, d'accord ? L'iniquité veut dire vivre dans l'iniquité, dans le sale, littéralement. Donc le chrétien moyen pense qu'il est normal de pécher après sa nouvelle naissance. C'est normal, on tombe, on se relève. La vie doit faire comme ça. C'est normal, on a tous de ces jours. Vous voyez, j'étais à la gym, à la salle, au fitness. Il y a quelqu'un qui m'a dit, « Ah, mais aujourd'hui, c'est un de ces jours comme ça, où il n'y a rien qui va. » Il n'y a rien qui va. Bon, déjà, il est en bonne santé. Il a pu venir au fitness, ce qui est une source de joie pour lui. Il a un travail, il vit dans un pays prospère. Il n'y a rien qui va. Vous voyez à quel point nos paroles, des fois, sont futiles. Hein. Et je me disais, mais quel genre de jour on a où la parole de Dieu ne fonctionne pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? La parole de Dieu fonctionne tous les jours. Dites, la parole de Dieu fonctionne en moi. 24 sur 24. Parce que c'est la vérité. La parole de Dieu n'a pas de date de péremption. Elle n'a pas de date de vacances. D'accord ? La parole de Dieu fonctionne en vous toujours. Ok, et il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Verset 3. Il dit au verset 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Juste une seconde, regardez bien. Donc là, il affirme que tous les enfants de Dieu sont morts dans le baptême, la mort du Christ. Leur chair a été crucifiée avec Christ. Leur nature de péché, leur nature de destruction, les maladies, la pauvreté, ont tous été crucifiés avec Christ. Mais il dit quelque chose. Ignorez-vous. Pourquoi il dit un truc pareil ? Parce qu'il est possible pour un chrétien, même si c'est la vérité, même si c'est vrai que Dieu a déjà vaincu la mort, qu'il a déjà vaincu la maladie, qu'il a déjà vaincu la pauvreté, qu'il a crucifié votre corps de péché, il est possible qu'un chrétien ignore cela. Donc là, il dit, ignorez-vous donc que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ok, donc il n'y a pas deux natures en vous. Hein. Il n'y a pas la nature du péché et la nature de Dieu. Hein. Il y a juste la nature de Dieu. Maintenant, notre cerveau, notre manière de réfléchir, notre pensée a été programmée dans le péché. Et c'est pour ça qu'on continue des fois en tant qu'enfant de Dieu à faire des péchés. Mais vous, maintenant, vous pouvez être transformé. Une seconde, continuons seulement. Vous allez voir. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Littéralement, c'est nous avons été assimilés avec lui dans la mort. Donc là, quand Jésus était sur la croix, vous étiez en lui. Vous saviez ça ? Vous tous, vous étiez en Jésus-Christ quand il était sur la croix. Vous saviez ça ou pas ? La Bible dit « J'ai été crucifié avec Christ et c'est Christ qui vit en moi ». Vous voyez votre vie de destruction, votre vie soumise à la maladie, votre vie soumise à l'échec a été crucifiée avec Christ. Cette vie-là n'existe plus en ce qui vous concerne. En ce qui vous concerne, cette vie-là a été annihilée et vous avez été assimilé avec Christ. Continuons encore verset 6. Oh, c'est si merveilleux. « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Dites « Je suis libre du péché ». Dites « Je suis libre de la destruction ». Dites « J'ai été libéré du péché ». Dites « Mon homme ancien a été crucifié ». C'est la vérité. Christ était sur la croix et vous, votre vieil homme, c'est-à-dire votre nature de pécherie, votre nature de destruction. Vous savez que maintenant que vous êtes en Christ, la vitalité de Dieu a pris possession de votre corps. Hein. Mais c'est à nous de fonctionner. Je vous ai déjà dit, qui a fait l'expérience ? Levez pas la main, mais réfléchissez-y. Parce que... Et donc, j'aimerais que vous soyez une fois que vous preniez le temps, vous qui êtes enfant de Dieu, posez-vous 5 minutes sur votre lit, sur votre canapé, et soyez conscient de la puissance du Saint-Esprit qui passe dans votre corps. Vous allez même commencer à la sentir des fois, parce que le Saint-Esprit a vraiment vitalisé vos corps. Il y a une personne dans cette église qui est née de nouveau, peut-être il y a 7 mois, je pense, qui avait des allergies qui venaient toujours pendant le printemps. Depuis qu'il est de nouveau, sans même qu'il aille fighter les allergies, vous voyez, en prière intense, l'allergie n'est plus revenue. Comment ça se fait ? Parce que le Saint-Esprit a vitalisé le corps, vous voyez ? Et c'est pour ça que vous, vous avez commandement sur la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais que ça ce soit un point que vous sachiez. Vous êtes au commandement de la puissance de Dieu pour votre vie. On peut juste avoir Romains 5, 17. Juste une seconde. C'est des versets qu'on reprend souvent, mais c'est des versets d'établissement. C'est des versets d'établissement. C'est des versets qui doivent vous conduire dans votre vérité. C'est des versets qui doivent vous aider à conceptualiser ce que Christ a fait de vous, c'est-à-dire un joyau céleste. C'est sérieux à part ça, hein? Regardez. Oh, alléluia. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Là, il parle d'Adam. Vous savez, Adam qui avait péché contre Dieu. Et à cause de lui, l'entier de l'humanité a été plongé dans le péché. Il dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils où ? Dans la vie par Jésus-Christ. Vous régnez, dites « Je règne ». Dites « Dieu m'a investi de la royauté ». Et vous devez, vous voyez vos mots. Ça, c'est quelque chose qui m'impressionne au niveau philosophique. Parce que les mots sont uniques à l'être humain. Les animaux communiquent, hein, ils communiquent entre eux. Par exemple, si vous prenez un chien, par exemple, moi j'aime beaucoup les chiens, ils vont exprimer leur mécontentement ou leur agressivité en montrant les crocs. Donc c'est une communication qu'ils donnent. Hein. D'ailleurs, s'il y a deux chiens qui se tapent un peu, il y en a un qui monte les crocs et le plus gros, en général, il gagne. Donc il y a quand même une communication. Mais aucun animal ne parle. Vous voyez ? Dites « Je suis libre du péché ». Vous savez, il faut comprendre quelque chose. Vous n'étiez pas une personne qui a été libérée du péché pour être une personne libre du péché en tant que tel. Qu'on est dit libre du péché, c'est parce que vous êtes né dans Dieu sans péché. D'accord ? Dites « Je suis né de nouveau ». Est-ce qu'on peut avoir 1 Pierre, chapitre 1, verset, je pense, 18. Je vais vérifier pour être sûr. Dites « Je suis un succès ». Mais c'est vrai, vous savez, vous êtes vraiment un succès. Pardon, verset 23. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. C'est pour ça que vous devez être établi dans les Écritures. Que dit la Bible à votre sujet ? Que Dieu pense de vous ? Quelle est la puissance qu'il a mis à disposition de votre esprit ? Parce que, vous savez, en ce qui concerne Dieu, on l'a vu, Dieu vous voit comme un succès absolu. Point final. Donc, c'est à vous d'aligner votre pensée et d'aligner votre vie à cette réalité. Vous voyez ? La Bible nous dit, puisque vous avez été régénérés, littéralement c'est né de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc aujourd'hui, la parole de Dieu vous a recréé. Vous êtes un homme nouveau, une femme nouvelle. Vous n'êtes pas, vous voyez, une personne qui est juste passée par un renouveau. Non, littéralement, votre ancien vous a été détruit à la croix et vous êtes né de nouveau, glorieux en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que maintenant, votre vie doit suivre cette réalité. Mais c'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité de vivre dans cette réalité. Dieu a pour vous des plans de bonheur et non de malheur. Amen. Et donc Dieu a prévu pour vous une réussite constante. Et cette réussite constante sur terre est dans l'optique unique de gagner des âmes à Christ. Vous savez, cette belle voiture que vous avez, gloire à Dieu pour ça. Et vous savez, une fois que vous serez au ciel depuis 100 000 ans, avec Jésus-Christ à régner, je peux vous garantir que la voiture que vous avez conduite, vous n'allez pas franchement y penser. Hein. Vous saviez ça ? Vous allez dans un niveau de gloire tel. C'est pour ça que, et j'insiste, je crois en cette prospérité, moi. Je crois que Dieu veut notre santé. Mais je ne crois pas que c'est pour des raisons égoïstes. Vous voyez ? Dieu veut que vous soyez prospère. Mais ce n'est pas juste pour le fun d'être prospère. Je vous l'ai déjà dit, si Dieu voulait uniquement votre prospérité, vous aurez déjà traduit au ciel. Vous serez déjà au ciel, là où la prospérité est sans limite. Mais Dieu veut votre prospérité sur terre pour que vous soyez un succès pour l'évangile. Construisez pas des choses sur terre sans rien. À quoi ça sert d'avoir... Une fois, je me demandais, j'avais vu qu'il y avait un pasteur américain connu qui avait une grande, grande maison avec genre 6 salles de bain. Et il vit qu'avec sa femme dedans. C'est pas comme s'il avait une grande famille. Et vous savez, par exemple, pasteur Chris, il a cette... Pour ceux qui savent, hein, il a cette espèce d'immeuble-là. Puis lui, il vit en haut, dans le dernier étage. Il a juste 2 niveaux pour lui. Et ça... Bon, voilà. Et le reste, c'est des chambres d'hôtes. Donc là, ça peut être compréhensible, vous voyez, qu'il y ait des... gens qui dorment. Mais à quoi ça sert d'avoir 6 salles de bain alors qu'on est 2 dans la maison ? Vraiment, pour moi, ça, c'est un excès qui est injustifiable. À la limite, je pourrais encore comprendre si c'est parce que, vous voyez, ils avaient une grande famille, puis les enfants ont déménagé, puis maintenant ils sont grands, puis eux, ils restent. Ça, je pourrais comprendre. Non, ils l'ont acheté en tant que tel. Alors, est-ce que c'est un péché ? En soi, non, c'en est pas un. Parce que posséder une belle chose, c'est pas un péché, n'est-ce pas ? Dieu veut que vous ayez des très belles choses. Mais je me demande des fois si le message de prospérité, le message de santé, le message de succès n'a pas été un peu dévié de sa raison d'être. Parce que Dieu veut votre succès. Vous savez, Dieu veut votre succès pour que vous puissiez être un succès pour l'évangile. Vous voyez ? Je ne vais pas aller dans mes détails, mais moi, Dieu, grâce à cette instruction que Dieu m'a donnée de démarrer mon entreprise, je suis un des plus gros donateurs du ministère. Vraiment, dans les 100 meilleurs du monde. Et pourtant, qui c'est qui a vu ma voiture ? C'est quoi la voiture que je conduis ? 206 plus, exactement, une Peugeot 206. Pourquoi ? Parce qu'une voiture n'a pas d'importance. Le jour où j'ai besoin, parce que j'ai une famille, vous savez, des enfants, là j'en achèterai une nouvelle, gloire à Dieu. Mais des fois, il y a des chrétiens qui prennent ce message de succès et ils vont prier, parce qu'ils veulent absolument cette voiture. C'est de la folie ça pour Dieu. C'est fou de prendre cet évangile de prospérité qui est vrai. Hein. Dieu veut que vous prospériez. Dieu veut que vous soyez tellement riche qu'une fois vous vous évangélisez dans la rue comme ça, vous voyez, vous amenez 6 âmes à Christ. Mais les 6 n'ont pas de voiture, ils n'ont pas quoi devenir. Tu fais, oh, ben, c'est pas grave, je vais acheter un minivan Mercedes et je viendrai tous vous chercher. Vous voyez, c'est ce genre de prospérité que Dieu y veut. Vous voyez, vous êtes là, 100 000, paf, je prends pour ça. Ou bien que Dieu, vous êtes comme ça en train de prier, et Dieu vous parle et dit, oh, toi, tu vas aider les mères célibataires. Tu fais, oh Seigneur, merveilleux, comment ? Le Seigneur dit, je vais te donner des instructions, va juste les gagner maintenant. Donc vous allez comme ça, vous arrivez, vous prêchez dans la rue aux mères célibataires. Et là, il s'avère que, oh, oh, il y en a une, que son mari vient la mettre dehors pour une raison stupide. Elle a dit, mon mari, il est sérieux. Et elle a 2 enfants. Vous voyez ? Vous voyez un peu l'idée ? Et vous êtes là, Dieu m'a parlé de les aider. Je vais vous louer la chambre là. Et vous prenez une chambre magnifique dans un magnifique hôtel et vous payez cash pour ça. C'est ça la prospérité. Elle sert à ça la prospérité. Elle ne sert pas juste à, oh, Dieu m'a donné de l'argent, je vais pouvoir voyager uniquement dans un jet. Non ! Dieu a prévu une prospérité pour vous, un succès pour vous, mais pour les autres. Vous savez, vos besoins à vous, la Bible dit, psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez, vos besoins à vous, littéralement il dit, on pourrait traduire par « je n'ai aucun besoin ». Vous voyez à quel point c'est profond ? Donc vos besoins à vous, ils ont déjà été réglés par Christ depuis longtemps. Arrêtons de nous focusser sur nos besoins parce que, je peux vous donner un secret spirituel, si vous focussez sur vos besoins, ça veut dire que vous confessez que vous en avez. Vous voyez ? Au nom de Jésus, l'argent vient à moi pour payer mon loyer. Là, vous venez de dire, sans le vouloir, vous venez de dire que vous n'avez pas d'argent pour payer votre loyer. Vous venez de confesser que vous n'avez pas d'argent pour payer votre loyer. Mais quand vous commencez à prier pour les autres, Alléluia, l'argent vient à moi pour que je fasse ce que Dieu m'a appelé à faire. Rien d'autre. Et là, vous allez voir le succès mais dans lequel vous allez marcher. C'est ce que Dieu a prévu pour vous. Continuons. On avait dit Romain, n'est-ce pas ? Ouh. Mais j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Regardez, oh, c'est tellement merveilleux. Si on reprend de Romains 6, s'il vous plaît. On s'est arrêté à 6, c'est juste. Hein. Oh, alléluia. Vous voyez, si vous ne péchez pas, c'est pour le succès de Dieu. Vous voyez ? Dieu a prévu pour vous un succès, mais un succès. Vous voyez, un jour, vous allez venir comme ça devant Dieu et il va vous donner... Qui c'est qui est né de nouveau ici ? Tout le monde, je pense. Hein ? Ok, parfait. Pour ceux qui sont nés de nouveau, le seul jugement, c'est le jugement de vos œuvres. Vous n'allez pas être jugé si vous allez au ciel ou pas. D'ailleurs, vous y êtes déjà. Amen. La Bible dit qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Dites, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Ok, donc, en ce qui vous concerne, ce n'est pas la question de est-ce que vous allez au ciel ou pas. La question, c'est est-ce que vous allez avoir des récompenses éternelles ou pas. Ok ? Et donc, là, un jour, vous allez vous trouver devant Dieu. Vous allez marcher comme ça, sur une... Moi, je le vois un peu comme, vous savez, les... Comment on appelle ça ? Les awards, vous savez, les trucs. On marche vers la personne qui nous transmet notre couronne. Enfin, pour le coup, des prix humains. Donc, un jour, vous allez vous trouver devant Dieu. Vous allez marcher vers Jésus-Christ, avec toute sa gloire et sa puissance. Et il va devoir vous donner une récompense de ce que vous avez fait ou pas. Et la Bible dit qu'il y a des chrétiens qui vont arriver devant lui, zéro. Jésus va dire, j'ai pas de prix pour toi, mais tu rentres quand même au ciel. Il est bon Dieu quand même. Hein. Regardez, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc vous avez été crucifié avec Christ, vous êtes donc maintenant libre du péché. Dites, je suis libre du péché. Il n'exerce aucune emprise sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Et regardez, ensuite, il continue, c'est tellement profond, parce qu'après, il dit, au verset 8, regardez, c'est pour ça que vous devez voir qui vous êtes. Est-ce que vous savez ? C'est pour ça qu'il a commencé, il a dit, ignorez-vous ? Parce qu'il y a des gens qui ignorent ça, il y a des enfants de Dieu qui ignorent cette vérité, qu'ils ont été crucifiés avec Christ et que maintenant, ils vivent dans le résultat de la résurrection de Christ et que tout ce que Dieu a fait pour eux est illimité et fini. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons par lui. Alléluia. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, la mort n'a plus de pouvoir sur vous, sur vos finances, sur votre avancement, la mort n'exerce plus de pouvoir sur vous. Votre corps est régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Voyez encore. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Vous devez vous voir, vous regarder. Ça, c'est l'exercice du miroir, je l'appelle. Régulièrement, je me pointe devant un miroir. Il y en a un là-bas. Je me regarde dans le miroir et je dis, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis mort au péché. Je suis comme un arbre planté près des cours d'eau qui donne le fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce que j'entreprends prospère. C'est des choses, vous devez vous voir, voyez-vous. Il y a un miroir. Vous voyez ? Il y a un miroir de la vérité. Un miroir qui vous dit qui vous êtes vraiment. Peut-être certains d'entre vous, vous regardez dans le miroir le matin et vous voyez quelques défauts, peut-être que vous n'aimez pas. Mettez ça de côté, Dieu vous a créé comme vous êtes. Et Dieu vous aime comme vous êtes. Et vous devez vous aimer aussi, c'est important. Hein. Et donc vous vous voyez. Et vous voyez une image de qui vous êtes, n'est-ce pas ? Donc, imaginons que vous devez vous préparer pour le travail. Et vous voyez une énorme tache de Nutella, comme ça. Et vous vous regardez dans le miroir. Le miroir vous donne cette information. Vous allez normalement agir en conséquence, n'est-ce pas ? Vous allez l'enlever. Vous assurez d'être propre, tout ça. La parole de Dieu est le miroir de Dieu. Vous saviez ça ? Est-ce que vous saviez ? Prenez Jacques. Dites j'avance à tous égards. Tout m'est possible. Vous voyez, je ne peux pas rater. C'est impossible. Je viens de dire tout est possible. Maintenant, je dis que c'est impossible. Mais je ne peux pas rater. Tout échec a été crucifié avec Christ, c'est fini. Toute maladie a été crucifiée avec Christ. Toute oppression a été crucifiée avec Christ. C'est pour ça que vous devez être très sérieux avec l'évangile. Dites, je suis sérieux avec l'évangile. Dites-le avec plus de conviction. Je suis sérieux avec l'évangile. Vous voyez, Christ a payé un trop grand prix pour vous. J'aimerais qu'on puisse prendre Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Dites, je suis un succès absolu. Est-ce que vous saviez que vous l'êtes ? un succès absolu. Vous dites, mais Joachim, je n'ai pas de travail. Joachim, mes enfants me causent problème. Joachim, je n'ai pas su me contenir encore. Hier, je me suis disputé avec des voisins. Vous voyez ? Je vous ai dit, ça c'est du ressort de votre âme et de votre corps. En ce qui concerne Dieu, vous êtes un succès. Et Dieu a conceptualisé ça en vous par Jésus-Christ. Et vous devez vous voir comme vous êtes vraiment. Regardez. Une dame qui se maquille, elle doit choisir le fond de teint, ça s'appelle, n'est-ce pas ? Et c'est une chose que je ne savais pas non plus avant de parler avec des dames. Vous savez, nous les hommes, on ne pense pas à ce genre de choses, vous voyez. Et en fait, le fond de teint doit être en adéquation avec votre couleur de peau. C'est logique, hein. Donc, si c'était là aujourd'hui, je ne sais pas si elle met du fond de teint, c'est là. Mais si elle va acheter du fond de teint et qu'elle prend le fond de teint beige qui irait à ma maman, ce serait un petit peu incohérent, on est d'accord ? Donc, elle doit voir qui elle est et agir en conséquence, ok ? Maintenant, voilà ce que la parole de Dieu dit. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous savez qu'il y a des faux raisonnements, hein, qui peuvent même venir de la parole de Dieu. Les gens prennent la parole de Dieu et en font des faux raisonnements. Vous voyez ? Alors, ce n'est pas Dieu lui-même qui a des faux raisonnements, attention, hein. Et les gens qui prennent la parole, il y a des faux raisonnements. Et regardez encore, verset 23. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, ok, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. » Donc vous êtes dans la parole de Dieu. Voyez, vous prenez la parole de Dieu. On va prendre psaume 1, qui est un des psaumes les plus merveilleux. Juste une seconde, d'abord on finit ça. Voilà. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Il y a une loi de la liberté qui est à l'œuvre en vous, vous saviez ça ? Dites « je perds dans la loi de la liberté ». Dites « je perds dans la juridiction de l'esprit de vie en Jésus-Christ ». Ok, on va juste redécomposer, c'est un peu long. Je perds dans la juridiction de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il y a une loi qui opère en vous, vous saviez ça ? Il y a une loi qui fait que, oh, si vous arrivez dans ce bureau, c'est vous qui allez être promu le plus vite. Il y a une loi qui fait que si vous démarrez cette entreprise, même s'il y a 60 autres entreprises qui font la même chose sur Lausanne, c'est vous qui allez avoir le succès et c'est vous qui allez amener la puissance de Dieu. Il y a une loi qui fait que si votre collègue est malade et vous tous dessus avec du Covid, vous allez faire comme ça et c'est bon. Rien. Vous voyez ? Dites, je suis un succès parce que je perds dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. J'ai essayé de faire assez vite cette fois. Gloire à Dieu, regardez. N'étant pas, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc vous voyez que vous êtes béni, vous dites « Alléluia, je suis béni ». Quelqu'un vous pose la question « Comment ça va ?» Ça va. Pour répondre « Je suis béni, Alléluia ». Attention, ça dépend du contexte dans lequel vous êtes. Hein. Une fois, vous savez, moi j'ai pris l'habitude de répondre contre les gens qui vont contre la parole de Dieu dans ma vie. Donc quand c'est gentil et pas méchant, je vais gentiment et pas méchant non plus, vous voyez. Par exemple, il y en a des qui disent « On a tous des jours où on n'est pas au top ». Je dis pas moi, vous voyez, genre je contredis, j'explique à mon cœur que non, pas moi. Par contre, il y en a des fois qui vont frontalement contre l'enseignement de Dieu, et là je vais aussi frontalement contre eux, vous voyez. Il y en a des qui m'ont dit, c'est complètement stupide de croire en la santé divine. Je dis, c'est toi qui es stupide de ne pas marcher dans ce que Dieu a pour toi, vous voyez. Donc il faut, papa, d'accord, glorifier la parole de Dieu, ok. J'aimerais juste qu'on prenne psaume 1 encore, un de mes psaumes préférés. Regardez, parce que Dieu, alléluia, vous voyez quand vous parlez, vous vous remplissez du Saint-Esprit, et vous... distribuer le Saint-Esprit partout. Alléluia. Vous savez, oh, qu'est-ce que Dieu a fait de vous ? On se préoccupe tellement en tant qu'enfant de Dieu de petites choses qui ont finalement très peu d'importance. Mon loyer. Et Dieu, il sait que vous avez un toit. Hein. Dieu, il sait que vous avez besoin de payer ce loyer. Arrêtez de vous en faire pour des petits trucs comme ça. Marchez dans la foi. Vivez dans la victoire. Vivez dans la puissance que Dieu a déployée en vous. Dites, je suis plus que vainqueur. Vous saviez ça ? Et s'il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, alléluia, et qui la médite jour et nuit. Est-ce que vous méditez la parole de Dieu ? Vous savez, il n'y a pas un jour où je ne lis pas ma Bible. Comment un chrétien pourrait pas lire la Bible pendant un jour ? Dites, je prospère à tous égards. Ok. Qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je suis comme un arbre planté vers des courants d'eau. Vous voyez, un courant d'eau, c'est de la provision constante. Dites, j'ai une provision constante en Christ. Dites, j'avance à tous égards en Christ. Vous voyez, vous êtes comme ça. Il y a un ruisseau constant vers là. Vous avez besoin d'eau ? Pouf, vous prenez. Vous avez besoin d'argent ? Vous baissez un petit peu, vous prenez votre ruisseau. Vous voyez ? Il dit, qui donne son fruit en sa saison. Dites, je donne mon fruit en ma saison. et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je suis comme ce cap, je préfléchis. Vous voyez, j'avance à tous égards. Comment un chrétien peut être défait ? Et pourtant, vous voyez, comment je pourrais pécher ? Moi, et vous savez que pécher, ça veut dire manquer la cible. Hein. Ça veut dire que pécher, ne pas pécher, ça ne veut pas seulement dire ne pas s'énerver, ne pas dire des gros mots, ne pas si. Ça veut aussi dire réussir dans tout ce que vous faites, parce que ne pécher, ça veut dire manquer, ne pas réussir. Donc ça veut dire que si on dit ne péchez plus, ça veut dire cette loi, cet homme qui ne réussissait pas tout, est mort. Mais vous, en Christ maintenant, vous réussissez tout. C'est pour ça qu'il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Franchement, réfléchissez juste à ça. Tout ce qu'il... Vous savez, il y a cette question, je sais que certains de vous venez en voiture, comme moi, il y a cette question du parking, ici. Vraiment ! Parce que des fois, il y a un peu moins de place de parc que prévu. Vous savez que moi, j'ai dit non, tout ce que je fais me réussit. Et chaque fois que je viendrai, j'aurai une place de parc. Et chaque fois, j'ai une place de parc. Toujours ! Et donc, j'ai des frères et sœurs qui m'appellent. Ils disent, oh, on ne trouve pas de place de parc. J'ai dit, oh, prie en langue, jusqu'à ce que vous en trouviez une, vous voyez. Ils ont commencé par prier en langue, et maintenant, je sais que le problème ne s'est presque plus posé. Les seules fois où il s'est posé, c'est peut-être qu'ils n'ont pas prié en langue pendant le trajet, gloire à Dieu. Mais vous voyez, l'échec n'existe pas. Qu'est-ce qu'il a dit ? Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout. Il n'y a rien que vous fassiez qui ne réussit pas. Vous cherchez une place de parc ? Vous l'avez. Vous parlez de Jésus à quelqu'un ? Il vient, Christ. Oh, allez, dites, je suis un succès absolu. Parce que Christ a prévu de ça. Mais j'aimerais juste qu'on finisse avec Romains rapidement. Rapidement, je sais que c'est la fête des mamans. Combien de mamans ici ? 1, 2, 3, 4. C'est parfait. Vous savez, l'Esprit de Dieu est puissant. Dites, l'Esprit de Dieu est puissant. Parce que Dieu m'avait dit d'acheter des roses pour les mamans. C'est ce que j'ai fait. Et donc, hein ? Alors, oui, c'est ça. Presque ça s'est passé, jusqu'à qu'elle vienne en paquet. Donc en fait, j'avais préparé le bouquet là pour les gens qui regardent. Et j'étais là, combien de mamans dans notre église ? J'en compte 3. Stella, ma maman à moi, et Christelle. Et l'Esprit de Dieu m'a dit d'en mettre 4 de côté. Ce qui veut dire qu'elle va avoir une nouvelle maman. Vous voyez un petit peu l'idée ? Et je crois que c'est la dame là. Comment vous appelez ? Marie-Josée. Parfait. Donc Marie-Josée aura sa rose, gloire à Dieu. Vous voyez comme Dieu se prend soin de tout. Dieu sait tout. La vie est spirituelle. 4. Moi, je me suis dit, bon, si Dieu dit 4, j'en mets 4 de côté, ça marche. Oui, Seigneur. Oui, chef. Oui. Il y a des gens qui disent des fois, j'ai pas envie, Seigneur. Comment on peut dire ça au Seigneur ? Quelle honte. J'ai pas envie à Dieu. Ok. Gloire à Dieu. Alléluia. Levez les mains vers Dieu. Commencez à prier et remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Vous levez-vous, s'il vous plaît.